philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 mai 85.
Je vous ai situé la dernière fois cette recherche de l'être en acte et en puissance, c'est-à-dire bien comprendre à quelle interrogation ça correspond. L'interrogation de savoir toujours plus profondément ce qu'est l'être comme tel. Alors c'est bien là où il faut saisir ce problème nouveau, voir comment il n'y a pas de découverte de cause propre au niveau de la cause matérielle, au niveau de la cause efficiente, et comment la découverte de l'ousia, de la substance, de la qualité, de la quantité, donc de toutes ces modalités particulières de l'être du côté de la forme, ne suffisent pas, qu'il y a un nouveau problème. C'est important de bien comprendre que qu'est-ce que c'est que l'être, la découverte de l'ousia n'épuise pas cette interrogation. Tiesti par rapport à ce qu'est l'être comme tel doit aller plus loin que la découverte de l'ousia, ce qui n'est pas commode, hein, à bien voir. Alors, nous y reviendrons du reste. Je voudrais d'abord avec vous faire une petite enquête. Je souligne ça, c'est pour que vous-même vous découvriez. Il faut découvrir ça de soi-même, hein. Il faut arriver à le découvrir par sa propre interrogation sur ce qu'est la réalité, ce qu'est l'homme. Et que uniquement le point de vue de l'ousia ne suffit pas à découvrir pleinement ce qu'est l'être. Alors, avant de répondre, je laisse l'interrogation exprès. Vous comprenez que si ça suffisait, on terminerait. Et ça a été de fait, et on essaiera de comprendre pourquoi, ça a été de fait constamment dans la scolastique. Dans la scolastique, la grande division de l'être, c'est substance et accident. Et vous voyez des questions annexes sur essence et existence. Et qu'à regarder le petit livre, parce que c'est très significatif, parce que c'est fait avec beaucoup d'honnêteté, alors c'est très significatif là-dessus, le petit livre du père Gardeil, hein, sur la métaphysique de saint Thomas. Et vous regardez la table des matières, alors vous voyez tout de suite que dans cette table des matières, on ne sait pas trop comment ça s'organise. C'est très gênant, parce qu'une science demande qui est quelque chose d'organique. Il y a un ordre, le propre du sage est d'ordonner. Je sais bien que c'est le sage qui ordonne, mais le savant aussi ordonne. Pas d'une manière ultime, mais quand même, dans sa recherche, il y a un certain ordre. Il faut comprendre pourquoi il y a une nouvelle question qui ne peut pas être épuisé par la découverte de l'ousia. Alors à ce moment-là, on comprend qu'il y a une nouvelle orientation. Alors avant d'y répondre, il faut toujours faire ça. Il faut s'aider de ses anciens. Il faut s'aider des autres philosophes. Les autres philosophes, quand même, ont recherché la question. Donc ça doit nous aider. Et là, il y a surtout le vieil Aristote qui doit nous aider, n'est-ce pas ? Le vieil Aristote doit nous aider pour cette question de l'enquête sur le point de vue de l'acte, étant donné cette parole de Heidegger qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle est importante dans notre monde d'aujourd'hui, que le sommet de toute la pensée grecque a été la découverte de l'entelecheia. Donc l'entelecheia, la découverte de l'acte chez Aristote. Heidegger n'est pas un ami d'Aristote, on ne peut pas dire que c'est un ami d'Aristote, on peut pas. Mais il est obligé de reconnaître ça. C'est joli ça, il est obligé de reconnaître ça, qu'il y a dans la découverte de l'acte, de l'entelecheia, comme un sommet de toute la pensée grecque. Oui, il faudrait mettre ça au point de départ, hein, parole d'Heidegger. Alors ça nous montrerait qu'il y a là quand même un problème qu'on doit découvrir. Ce n'est pas chez Platon qu'on découvrira ça. Platon, c'est la forme. Ce que dit Aristote au début de la métaphysique, du reste, hein, il dit que Platon, c'est la cause formelle. Ça, d'une façon étonnante, c'est la cause formelle. Mais la causalité finale chez Platon, ou le point de vue de l'acte, c'est pas précisément ça qui a été chez Platon la recherche la plus pénétrante. C'est l'eidos, c'est la forme. Alors on peut dire que lorsqu'il s'agit de cette partie de la philosophie découverte de l'acte, l'apport d'Aristote est ce qui concerne en ce qui concerne la métaphysique de l'acte, la philosophie première de l'acte et de la puissance, est encore plus grand qu'en ce qui concerne l'ousia. Aristote est plus original. Heidegger ne considère pas que l'originalité d'Aristote, c'est l'ousia. Et c'est vrai que l'ousia est présente chez Platon. Ce n'est pas la même chez Platon et chez Aristote, mais on comprend très bien que Heidegger, dans sa recherche, considère évidemment que l'ousia, elle est présente chez Platon. Elle est très présente chez Platon. Tandis que l'acte, très peu. De sorte que je crois qu'on peut dire, et ça me semble important à souligner, qu'il y a du côté de l'acte l'originalité propre d'Aristote. Et je crois que la philosophie, l'originalité propre de la philosophie d'Aristote, c'est vraiment l'acte. Mais ce que quelqu'un comme Gilson n'a pas saisi. C'est bien dommage. Si Gilson avait saisi ça, tous les Gilsoniens par derrière l'auraient saisi, et on aurait dit moins de bêtises. Parce que pour Gilson, la philosophie d'Aristote est commandée par la distinction nature-forme et nature-matière. Et donc il arrive à dire que la métaphysique d'Aristote, c'est une ousiologie. Si lui ne le dit pas expressément, tous les autres le diront après. C'est-à-dire une philosophie de l'ousia, une philosophie de la substance. Alors, par le fait même, le problème de l'acte et de la puissance ne regarde plus la structure directe de l'être. Et au fond, c'est ça la difficulté. Est-ce que le problème de l'acte et de la puissance regarde la structure de l'être, ou est-ce que ça regarde simplement la structure du devenir? Il mettait ça en parallèle, comme question, parce que quand on regarde Aristote, c'est ça qu'on doit se poser la question. Est-ce que ça structure ce qui est ou est-ce que ça structure ce qui devient ce qui est nu? Il est évident que ça structure ce qui est nu, parce que ce qui est nu implique l'acte, et ce qui est nu implique la puissance. Donc, on peut dire que dans ce qui est nu, nous trouvons nécessairement l'acte et la puissance. Mais est-ce au niveau de l'être? Faites ce parallélisme quand vous lisez Aristote, quand on essaie de piocher un peu Aristote. Bon, quand on regarde ce qui est nu s'analyse nature, forme, nature, matière. Ce qui est nu Ce qui est mu se structure tout de suite, se divise tout de suite en nature forme et nature matière. Alors, est-ce que l'être en acte et l'être en puissance sont-ils deux modalités de ce qui est, qui structure le devenir, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui structure juste en être, au-delà des modalités? Est-ce que ça divise l'être comme des principes? Est-ce que l'être en acte est un principe? Ou est-ce que ça a moins de modalités? Et au fond, c'est ça la difficulté. Tout le monde reconnaîtra que dans une opération, il y a deux états particuliers, être capable de poser cet acte et puis de ne pas être capable de poser et de poser. Dormir et être éveillé. Deux états particuliers. Ce sont des états, ce sont des modalités, ce ne sont pas des principes. Alors, c'est un petit peu ces questions-là qu'on doit se poser, vous voyez, quand on regarde dans la philosophie d'Aristote. Hein. Aristote donne à l'ousia une signification nouvelle, beaucoup plus pénétrante que celle que lui reconnaissaient ses prédécesseurs et Platon. Par contre, le problème de la puissance et de l'acte n'est pas saisi par le fondateur de l'Académie, par Platon. Ce dernier parle plus volontiers de la dunamis. La dunamis... c'est la puissance. Et d'une certaine manière, pour Platon, la puissance domine tout. C'est pas l'acte, c'est la dunamis qui domine tout. Et je crois que ça, on peut le dire. Dans le sophiste, l'étranger propose comme définition de l'être ce qui a une puissance naturelle quelconque. Et c'est le mot dunamine. Ce qui a une puissance naturelle quelconque, soit d'agir, donc lorsqu'il s'agit du poyen, sur ce qu'on voudra, soit de subir l'action, même la plus minime, de l'agent le plus insignifiant. Dût cette puissance ne s'exercer qu'une seule fois, tout ce qui la possède est véritablement. Car je pose comme définition qui définissent les êtres qu'ils ne sont autre chose que puissance. Je crois que ça c'est dit avec beaucoup de force. Hein. Les êtres ne sont pas autre chose que la dunamis. Donc c'est la dunamis qui domine. La puissance, l'énergéia, la force. Alors dunamis comme puissance-efficacité. C'est l'exaltation de la puissance-efficacité. C'est... La dunamis, c'est ça, c'est très difficile. Quand je traduis puissance, vous voyez ça, c'est les équivoques des mots qui sont terribles. Hein. Parce que j'ai dit l'être en puissance et la puissance. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Quand vous dites la puissance, dunamis, c'est une puissance. C'est une capacité d'agir. J'ai la capacité d'agir, dunamis. Et puis l'être en puissance se dit... en référence de l'être en acte. Tandis que dunamis ne se dit pas en référence de l'être en acte. La dunamis possède une capacité d'agir. J'ai le pouvoir de défoncer la porte. Ça dépend si vous n'avez plus de pouvoir. Ça, c'est votre dunamis. Une capacité d'agir sur quelqu'un qui est à côté de moi est une matière molle et qui réagit mal. Alors, je vous donne un bon coup de poing. Je peux le dégonfler. Je peux agir sur lui. Ça, c'est la dunamis. Alors, pour Platon, et c'est ça qui est très curieux, et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que Platon. Hein. Il y aurait tous les philosophes qui mettent la dunamis au-dessus de tout. Platon et le néoplatonisme. N'oubliez pas ça. Tous les descendants de Platon... Hein. Platon, parce que ça fait comprendre un peu ce que c'est Platon. Je vous disais tout à l'heure, Platon, c'est le philosophe de l'Eidos et c'est le philosophe de l'Eidoniste. Il y a toujours deux aspects, ce n'était pas entièrement unifié, Platon. Alors, il y a le philosophe de l'Eidos et le philosophe de l'Eidoniste, de la puissance, une puissance, capacité d'agir. Alors, l'action devient quelque chose de très très important. L'action ou la contemplation, ça dépend comment on conçoit la contemplation. La contemplation peut être conçue aussi comme une action, comme quelque chose qui est capable d'agir plus profondément. Sur la puissance, donc on peut dire aussi, qu'il, c'est dans le sophisme. Dans le sophisme, on a beaucoup de textes qui nous montrent combien la dunamis, pour Platon, c'est quand même le sommet. Ça définit l'être. L'est se définit par la dunamis. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vraiment expliquer la pluralité des êtres, ni l'union de l'âme et du corps, ni les opérations vitales et le mouvement. Parce que la dunamis domine la puissance, la capacité d'agir. Aristote est le premier à élaborer une philosophie de l'acte et de la puissance au niveau de l'être. C'est donc dans sa philosophie première. Aristote, sans doute, se sert aussi de l'acte en philosophie de la nature pour définir le mouvement. Alors là, vous retrouvez hein, cette fameuse chose. C'est évident que lorsqu'il s'agit du monde physique, on va encore retrouver le point de vue de l'acte. Bien évident. Mais je crois que l'effort propre d'Aristote, c'est justement d'avoir essayé de regarder l'être en acte et l'être en puissance au niveau proprement de sa philosophie première. Parce que, en philosophie première, pour définir le mouvement et préciser ce que représente le mouvement, Aristote dit, c'est l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. L'entelekeia de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, nous retrouvons bien, pour définir le mouvement, ce qui est lui, l'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, le mouvement se définit par l'acte et la puissance. Lorsqu'il s'agit de l'âme et des opérations vitales, on peut dire qu'Aristote prend toujours aussi le point de vue de l'acte et de la puissance. Mais ce n'est pas cela qui est l'originalité la plus profonde. L'originalité plus profonde, c'est d'essayer de redécouvrir à l'intérieur même de cette considération de ce qui est en tant qu'être, de découvrir cette division de l'être en acte et d'être en puissance. Alors, c'est dans le livre Theta. C'est un livre qu'il faut lire d'Aristote. Hein. Très difficile, ça. Heidegger n'acceptait à son séminaire sur le livre Theta que ceux qui le lisaient en grec. Je vais vous montrer le sérieux. Parce qu'il considérait que c'était le livre par excellence au plan philosophique. Si on veut saisir ce que c'est que la métaphysique, il faut regarder le livre Theta. Le livre Theta est un livre qui est sûrement le livre le plus difficile et en même temps le livre le plus merveilleux. Parce que c'est par là que nous pouvons découvrir justement ce dépassement de l'ousia dans le regard sur l'être. Plus exactement, ce n'est pas tout à fait le dépassement de l'ousia, mais découvrir que la compréhension que nous avons de ce qui est ne peut pas s'arrêter à l'ousia. Découvrir autre chose. Donc c'est dans le livre Theta qu'Aristote entreprend cette étude. C'est donc bien ce livre qu'il faut considérer avant tout si on veut comprendre ce que c'est que l'acte et la puissance chez Aristote. Cependant, il faut bien comprendre que il y a comme tout un rayonnement à travers toute la philosophie d'Aristote de cette recherche de l'être en acte et d'être en puissance. Notons d'abord pour entrer un tout petit peu dans la pensée d'Aristote, hein, qui va nous servir d'interprète, si vous voulez. Là, il faut, je crois, se servir de ce qu'Aristote nous dit pour nous aider. Notons qu'à la différence de l'ousia, l'énergeia n'apparaît pas dans les apories comme un problème majeur. Alors, l'énergeia. On essaiera de comprendre progressivement ces mots grecs. Il faut quand même au moins les utiliser. Comme j'ai dit, l'ousia, je crois qu'il faut quand même utiliser entelekeia et energeia et comprendre ce que ça veut dire, l'être. L'être en acte, l'énergeia. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le grec, hein, faut apprendre au moins quelques mots. Quelques mots. Vous voyez, comme quand vous lisez l'évangile de Saint Jean, il faut quand même savoir quelques mots. Il faut au moins savoir le logos. Hein. Et puis il faut savoir au moins la lumière. Et puis il faut savoir au moins l'agapé. Il faut au moins savoir quelques mots. Parce que c'est, il y a une saveur dans ces mots. Hein. On vous l'a dit l'autre jour, hein, c'est très difficile de traduire, alors vous voyez bien. Alors c'est bon de comprendre qu'il y a des mots intraduisibles. Parce qu'ils sont liés à tout un contexte, à toute une série de choses. Il faut essayer. Une fois que j'ai compris, je peux le traduire. Il faut d'abord le comprendre. Il faut saisir qu'est-ce que c'est que l'ousia, qu'est-ce que c'est que l'energeia. Donc, il y a cette chose curieuse qu'à la différence de l'ousia, l'énergeia n'apparaît pas dans les apories comme un problème majeur. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. L'ousia, pour Aristote, c'est un problème fondamental. Si vous ne découvrez pas l'ousia, vous n'entrez pas en métaphysique. Je pourrais dire, si vous ne découvrez pas l'énergeia, vous n'allez pas jusqu'au bout. Évidemment, quand on a découvert l'ousia, on s'assied. C'est déjà tellement merveilleux. Et on s'assied. La substance, c'est fait pour qu'on s'assied dessus. Hein. Substare, c'est fondamental. C'est merveilleux. Alors, vous pouvez vous arrêter. C'est déjà quelque chose. Hein. C'est déjà quelque chose d'avoir découvert l'ousia. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Alors, c'est là où c'est pour ça que peut-être ça n'apparaît pas dans les apories comme un problème majeur. Aristote se pose néanmoins la question, toujours intéressant de voir ça, dans le livre Bêta, les livres des apories. Il se pose la question, les principes sont-ils en puissance ou en acte? Donc ceci dans la métaphysique Bêta 2, chapitre 2, 996 à 11, et puis un peu plus loin. Alors ça aussi c'est intéressant de se poser la question, les principes sont-ils en puissance ou en acte? Est-ce qu'au niveau des principes la distinction joue? C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez un principe, est-ce que vous pouvez parler d'un principe en puissance? Résolvez le problème pour vous, hein. Est-ce que vous pouvez parler d'un principe en puissance? Ou est-ce que, en acte et en puissance, ne peut regarder qu'une réalité existante ou non existante? Aristote se dit, si les éléments existent seulement en puissance, il est possible que rien du tout n'existe. Car il est possible qu'existe ce qui n'est pas encore. Ce qui commence d'être, en effet, c'est le non-être. Mais rien ne commence d'être de ce qui n'est pas puissance d'être. Le problème de l'acte est encore introduit d'une manière implicite à propos du bien. Donc, vous voyez, est-ce que vous pouvez parler d'un principe en puissance et en acte? Vous avez le temps, vous direz, mettez ça sur un petit papier, puis vous verrez vos réponses. Ce sera très amusant. Je pouvais parler d'un principe. Est-ce que la distinction, être en acte, c'est très beau, vous voyez, parce que c'est voir jusqu'où va cette distinction, sur quoi porte cette distinction. on utilise être en acte en puissance, comme ça, comme un... Ah, attention, est-ce que vous pouvez parler d'un principe en acte en puissance? Second problème, c'est à propos du bien. Aristote se pose la question à propos du bien. C'est toujours dans le livre Bêta 996-A-19. Aristote se pose la question à propos du bien. Appartient-il à une même science ou à plusieurs, donc c'est, ça fait partie toujours des apories, hein, de connaître tous les genres de causes? Ça, c'est une très grave question. Comment concevoir qu'un principe de mouvement ou la nature du bien puisse exister dans les êtres immobiles s'il est vrai d'une part que tout ce qui est bon par soi et en vertu de sa propre nature est une fin, donc une cause, et que d'autre part la fin, ce en vue de quoi est fin de quelque action, et que toute action s'accompagne de mouvement. Ainsi donc, dans les êtres immobiles, on ne saurait admettre l'existence ni de ce principe de mouvement, ni d'un bien en soi. C'est pourquoi les mathématiques ne démontrent rien par cette sorte de cause. Ça, c'est un des grands aspects d'Aristote, qui est très intéressant. Les mathématiques ne peuvent rien démontrer par la cause finale, parce qu'elles ne touchent pas le bien. Elles peuvent atteindre le beau, elles ne touchent pas le bien. En atteignant le beau, elles peuvent atteindre la causalité exemplaire. Les mathématiques peuvent donner des prototypes. C'est même peut-être une des choses les plus remarquables des mathématiques. Mais elles ne peuvent pas atteindre le bien. Si elles ne peuvent pas atteindre le bien, elles ne peuvent pas atteindre la finalité. Et donc le principe de finalité s'arrête là. Alors, est-ce qu'une philosophie comme Platon, qui est la philosophie avant tout de la forme, peut-elle atteindre vraiment la fin? Ou est-ce qu'elle n'atteint que la dynamis? Toutes ces questions sont sous-jacentes. Aristote pose ça en face de Platon, c'est bien évident. Il place ça en face de Platon et en face de tous les philosophes antérieurs à lui. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous poserons la question, est-ce qu'une philosophie, à la manière de Hegel, peut-elle atteindre la fin? Est-ce qu'une philosophie à la manière de Hegel peut-elle encore saisir le bien? Est-ce que la dialectique peut être une méthode qui regarde une philosophie du bien? Alors, vous voyez, c'est intéressant que c'est tout de suite la question du bien qui est en cause. Donc il y a des problèmes semblables. Ils touchent le point de vue de la fin, ils touchent le point de vue de l'acte, ils touchent le point de vue du bien. Il semble que la sagesse, la science suprême, doivent être la science de la fin et du bien. Mais n'est-elle pas plutôt la science de l'ousia? Donc ça, problème de Gilson. Est-ce que la philosophie première, c'est la science de l'ousia, ou est-ce que c'est la science du bien? Alors, voyez cette chose aussi qui est très intéressante à voir. La différence entre la science et la sagesse. Aristote parle de la Sophia. La science suprême est une sagesse. Est-ce que la science suprême n'est-elle pas nécessairement engagée vers le bien? Alors, tout le problème,
de savoir si la métaphysique qui regarde ce qui est capable de connaître le bien, ou est-ce que le bien relève de
sous-jacents, qui sont des problèmes toujours actuels. Ça reste des problèmes toujours actuels, il ne faut pas croire qu'on les a résolus. On les cherche tout le temps et on essaie de les comprendre de mieux en mieux. La métaphysique regarde ce qui est, ça c'est sûr, la philosophie première regarde ce qui est. Alors, si la philosophie première peut nous donner une sagesse, est-ce que la sagesse ne regarde pas nécessairement? Est-ce que le bien n'est regardé que par l'éthique? Ou est-ce que le bien peut être regardé aussi par le point de vue philosophique, par le point de vue de la philosophie première? Est-ce que la philosophie première doit s'arrêter au bien? Ou est-ce qu'elle peut pénétrer dans la question du bien? ce sont des apories, c'est-à-dire des questions. C'est très important d'éveiller notre intelligence quand il s'agit d'un problème particulièrement difficile. Si on n'éveille pas son intelligence, on pourra manger n'importe quoi et croire qu'on l'assimile et on l'assimilera pas du tout. Alors il faut se poser ces questions, c'est pour ça que c'est si important. Les apories d'Aristote, hein, le livre Bêta, c'est un livre très intéressant. De temps en temps, c'est fatigant peut-être de voir toutes les questions à la suite, hein. C'est peut-être fatigant, mais c'est quand même intéressant de voir comment Aristote, au début de sa philosophie première, se pose toutes ces questions. Au niveau des apories, le problème de l'acte n'est donc pas premier. Mais il est soulevé à titre de problème concernant une manière d'être des principes et un aspect ultime, le passage de la science à la sagesse. Quelque chose d'ultime, quelque chose de dernier. Mais il semble bien, d'après les apories, si je regarde uniquement les apories, la manière dont les apories sont posées, les difficultés, que le problème de l'acte ne structure pas directement une pensée scientifique. Ah, c'est très cool. Est-ce que le problème de l'acte peut-il structurer une pensée philosophique? Ou est-ce que c'est uniquement le problème de Bousillon? C'est la question de la spécification. Hein. Qu'est-ce qui spécifie? Qu'est-ce qui détermine? Qu'est-ce qui détermine la pensée? Le toti eneinain est lié à l'ousia, le problème de la cuidité est lié à l'ousia, et le problème du toti eneinain, est-ce qu'on peut encore en parler à propos de l'acte? Est-ce que je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'acte? Est-ce que l'acte a un toti eneinain, une cuidité? Alors c'est l'acuidité qui détermine l'intelligence. L'intelligence est déterminée par l'acuidité. Alors est-ce que l'intelligence est déterminée par l'acte ou est-ce que seulement la volonté est déterminée par l'acte? Que la volonté soit déterminée par le bien, que la volonté soit spécifiée par le bien, très bien, on comprend très bien. La volonté est faite pour le bien, donc elle tend vers la fin. Mais est-ce que le bien intéresse l'intelligence? Pour des quantités de philosophes, le bien n'intéresse pas l'intelligence. Question morale. Aucun intérêt. La morale, c'est quelque chose de secondaire. Ne regardez que la pensée. Ne regardez surtout pas la manière dont je vis, mais ne regardez que la pensée. Il n'y a que la pensée d'intéressant. Alors on fait une coupure entre le point de vue moral et le point de vue de la pensée. Ça, c'est ma vie privée. La vie publique, c'est la philosophie. Publique dans le sens où elle est communicable. Tandis que ma vie privée, incommunicable. Oui, c'est quand même des problèmes qui sont tout le temps là, présents. Est-ce qu'en faisant de la philosophie, vous arrivez à être meilleur? Battez-vous le pouls à la fin de l'année. Hein. En ayant fait 6 mois de philosophie, est-ce que vous êtes meilleur? Pas du tout, rien changé dans ma vie. Pas du tout, toujours le même. Oh, j'ai quelques idées supplémentaires, mais ce sont des idées qui planent. Elles planent très haut, très haut, très haut, et plus elles planent haut, moins elles me touchent. Alors est-ce que de fait, la question de la philosophie regarde une répercussion sur l'éthique? Ma manière de vivre. Nous avons tous une éthique, notre manière de vivre. Ou est-ce que ma métaphysique, le peu de métaphysique que je connais, est-ce que ça a eu une répercussion? Ça, c'est les apories d'Aristote. Et ça, à ce moment-là, c'est très très intéressant de regarder les apories d'Aristote, qui sont avant tout, les apories de la philosophie première, avant tout fixées sur le problème de l'ousia, et cependant le problème de l'acte apparaît. Donc, dans le livre Gamma, je recherche dans la métaphysique, où apparaît le point de vue de l'acte. Dans le livre Gamma, traitant de la science de l'être en tant qu'être,
Le livre Gamma est un livre particulièrement intéressant, parce que c'est comme un livre de critique, de réflexion critique. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique? Qu'est-ce que c'est que cette science de la métaphysique? Donc, dans le livre Gamma, traitant de la science de l'être en tant que tel, du toon éon, Aristote précise que les significations de l'être sont diverses, mais qu'elles sont pros-on, c'est-à-dire qu'elles sont vers l'être, veut dire vers l'un, pros-en, et que ce qui fait leur unité, c'est l'ousia. Ah, c'est aussi très intéressant à voir ça.
Donc, Aristote reconnaît que quand je regarde ce qui est, en tant qu'être, je vois que les modalités de l'être sont multiples. Les dix prédicaments, commencez à le savoir, les dix prédicaments, qui sont les dix modes de l'être, les dix modes de ce qui est, les modes de ce qui est, et que tous ces modes de ce qui est sont ordonnés vers un. Dès qu'il y a un ordre, il faut qu'il y ait une mesure. Donc, les dix modalités de l'être sont ordonnées vers l'un. Et quel est cet un? C'est l'ousia. Donc il semble bien que toutes les modalités de l'être sont ordonnées à l'ousia. Et donc d'une certaine manière, j'épuise l'être par les dix prédicaments. Ma connaissance de l'être, c'est les dix prédicaments. Puisqu'elles sont diverses, elles sont ordonnées vers l'un, et l'un, c'est l'ousia. Aristote le dit textuellement. Il n'y a plus de place pour l'acte. Les prédicaments, c'est quelque chose de tellement puissant, ça prend toute la structure de ma pensée. Et donc, il y a les dix prédicaments, les dix modalités de l'être ordonnées vers l'un. Je vous dis ça parce que c'est important, ce sont des problèmes que nous devons nous poser, je crois, si on essaie de comprendre la place de l'être en acte et l'être en puissance. Il parle alors de la science de l'être et de l'un, mais non pas de la science du bien. Il ne mentionne pas l'être en acte et en puissance, ce qui est très significatif. L'acte, à la différence de l'ousia, ne semble pas spécifier la science de l'être. Donc la science de l'être, la philosophie première, est spécifiée par le point de vue de l'ousia. Et tous les dix prédicaments, les neuf prédicaments, sont ordonnés à l'ousia. Et l'ousia seul spécifie. Donc une fois que je connais l'ousia, du reste Aristote le dit à propos dans le fameux livre sur l'ousia, il dit textuellement, la considération principale de la philosophie première, la considération principale, c'est de regarder l'ousia. Donc il semble bien, vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de saisir, il semble bien que la considération de l'ousia des prédicaments, ça semble exhaustif. Plus de place pour autre chose. Cependant, dans le traité de l'âme, traité de l'âme, c'est le vivant. Aristote affirme, si l'être et l'un sont dits de plusieurs façons, l'être et l'un au sens principal, c'est l'entelecheia. C'est très curieux. Donc, à partir du vivant, à partir de l'étude de l'âme, quand je suis dans l'étude métaphysique, Aristote semble dire que, mais oui, ce qui spécifie cette connaissance, c'est les dix modalités de l'être. Et on comprend très bien ça, une fois qu'on a saisi la substance, comme vous l'avez bien saisi, une fois qu'on a bien saisi les diverses modalités de l'être, on comprend très bien ça, et puis l'être, on connaît l'être parfaitement, j'ai les dix prédicaments, je les case comme ça. Et c'est vrai, quand on regarde même le raisonnement de saint Thomas, on voit que son souci principal, c'est de dire, la foi, c'est un habitus. Première référence, c'est un habitus. Une fois que j'ai dit habitus, j'ai bien catalogué la foi. La vertu, l'espérance, un habitus. Les dons du Saint-Esprit, un habitus. C'est très très important de cataloguer et de cataloguer avec les 10 prédicaments. Une fois que j'ai les 10 prédicaments et que je connais parfaitement les 10 prédicaments, pourquoi inventer quelque chose de plus? Dans les prédicaments, il y a l'action et la passion. L'action et la passion montrent bien quelque chose qui est en acte. L'action et la passion divisent le mouvement. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de plus? Alors, c'est curieux. C'est avec l'étude du De Anima. Je dis ça parce que ça nous aide à saisir. C'est avec l'étude du De Anima, donc le livre sur l'âme, qu'Aristote dit quelque chose que je ne trouve pas dans la métaphysique. Donc De Anima, livre 2, chapitre 1er, 412b9, où Aristote dit ceci, « Si l'être est l'un, ce qu'il avait dit dans les apories, hein, la division de l'être en être et un, si l'être et l'un sont dits de plusieurs façons, l'être et l'un au sens principal, curios, au sens principal, c'est l'entelekeia. Il ne dit pas l'energeia, il dit l'entelekeia. Je reviens à l'entelekeia. L'entelechie. Hein, regardez dans Tricot. L'entelechie. Ça, vous comprenez tout de suite. L'être au niveau principal, c'est l'entelekeia. Si l'acte ne spécifie pas, il constitue néanmoins la recherche ultime et donc principale, curios. Au niveau de la vie, c'est très curieux que l'acte apparaît plus immédiatement quand je regarde la vie que quand je regarde l'être. Ça aussi, ça fait une petite, comme petite constatation intéressante à faire, hein. Que l'acte apparaît plus immédiatement. Au fond, dès que je parle de la vie, je parle de l'acte. Pourquoi? Parce que dès que je parle de la vie, je parle de l'opération vitale. Un vivant qui n'est pas dans une opération vitale, c'est pas tout à fait un vivant. C'est un mort. Regardez ce vivant, il est immobile. Il n'y en a pas. Regardez ce vivant comme il est merveilleux. Il est dans une espèce de rayonnement étonnant. Ça. C'est son opération vitale. Entelekeia. Entelekeia, c'est l'opération vitale. C'est la vision. C'est l'action. Entelekeia. Alors je comprends très bien que quand je regarde le vivant, tout de suite, l'entelekeia apparaît. Parce que le vivant, c'est celui qui, justement, se meut. Alors c'est curieux que dans la structure du vivant, l'entelekeia apparaît tout de suite. Dans la structure de l'être, les 10 prédicaments. Je fais un peu une caricature, mais je dis quand même ce qui est présent dans Aristote. C'est vraiment ça qu'on voit dans Aristote. On voit tout de suite qu'il y a l'être, et vous voyez, alors n'oubliez pas le fond de Platon, il y a l'être pour Platon, il y a le bien et l'âme. Le banquet parménide. J'avais oublié ça. Le bien est là. Et l'être apparaît au niveau de l'intelligence. Donc l'être apparaît au niveau de la forme et au niveau de l'intelligence. Il y a un niveau différent. Le bien est au-delà de l'ousia et l'âme est au-delà de l'ousia. Vous ne pouvez pas parler de l'ousia du bien. Le bien est au-dessus. Et l'un est au-dessus. Aristote remet le point de vue de l'être au-dessus de tout. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire face à Platon. C'est pas commun. Aristote ne dit pas du tout. Ah oui, c'est le bien qui est là. Il est l'être. Ce qui est. Ce qui est, ça dépasse. Puis, il intègre par rapport à ce qui est là, le bien. Comme en parallèle, mais pas divisé de la même façon. Sauf quand il s'agit de l'un, de ce qui est et de l'un, il dit que les divisions.
divisions de ce qui est, donc de l'être. Les divisions de l'être et les divisions de l'homme sont toujours en parallèle. Le bien, un petit peu différent. On n'en parle pas pour le moment. Mais vous voyez, la difficulté, c'est d'intégrer le bien dans l'être. Intégrer l'un dans l'être, ça se fait tout de suite. Mais d'intégrer le bien dans l'être, ça c'est très difficile. Alors, il est évident que pour lui, il est face à Platon. Il ne faut pas l'oublier. C'est extraordinaire. Il inverse l'ordre de Platon. Le bien, l'être. L'être, l'homme, le bien. C'est inversé comme ordre. C'est très curieux. Comme ce sont deux grands génies, c'est très intéressant de voir cette manière différente d'intégrer le bien par rapport à l'être, ou au contraire, de voir que le bien est souverain, au-dessus de tout, au-dessus de l'être. Et vous voyez que tout ça a une répercussion évidemment immédiatement dans toute la structure de la philosophie, puisque ce qui est, regarde la philosophie première, le bien, l'éthique. Alors, est-ce que l'éthique a une relation avec la philosophie première, ou est-ce que l'éthique est distincte? Platon ne se pose pas la question, lui, parce que chaque dialogue, d'une certaine manière, est un dialogue, alors ça va. Platon ne s'est jamais posé la question, quelle différence il y a? Oui, il s'est posé un peu la question, mais pas de la même façon du tout, entre le bien et l'homme, le banquet et le Parménide. Il a l'avantage de faire des dialogues différents. D'une manière très élégante de regarder le problème d'une façon un peu différente. Tandis qu'Aristote, il ne fait pas des dialogues, il essaie d'analyser. Le dialogue, c'est décrit. Il décrit. Alors, on décrit ce que c'est que le bien. C'est le banquet. C'est très beau, c'est magnifique. Parménide, l'exigence de l'homme.